Eh bien oui, c'est vrai, nous avons besoin d'être renouvelés dans ces temps, hein, où il y a des petites choses qui traînent, là. Hein, mais il n'y a pas que le virus, on chie des fois quand il fait mauvais temps. C'est pas facile. Je vais prendre une parabole, voilà. Hein. Les vignerons, c'est dans Matthieu. Vous pourrez la parcourir bientôt, je crois, pour ceux qui lisent les cartes qu'ils ont données. Et cette parabole des vignerons se retrouve aussi dans Marc 12, versets 1 à 12, et Luc 20, 9 à 19. Donc trois fois dans les évangiles. Donc là, ici, je le prends dans Matthieu 21, au verset 33. Parce que je veux arriver au verset 42, entre autres, qu'on a déjà chanté. Écoutez une autre parabole. Il y avait un homme, maître de maison, qui planta une vigne. Dieu s'adresse aux sacrificateurs, aux anciens du peuple, aux principaux. On le voit au verset 23. Hein, voilà à qui il s'adresse. À ceux qui, quelque part, dirigent le temple, les sacrificateurs. Donc, il l'entoura d'une haie. Il creusa un pressoir et bâtit une tour. Puis il la ferma à des vignerons et quitta le pays. Lorsque le temps de la récolte fut arrivé, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir le produit de sa vigne. Et les vignerons, s'étant saisis de ses serviteurs, battirent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs, en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant, « Ils auront du respect pour mon fils. » Mais quand les vignerons virent le fils, ils dirent entre eux, « Voici l'héritier. Venez, tuons-le et emparons-nous de son héritage. » Et ils se saisirent de lui, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ses vignerons ? Donc Jésus pose la question au sacrificateur. Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ses misérables, et il affermera la vigne à d'autres vignerons qui lui en donneront le produit au temps de la récolte. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures ? Et là, Jésus reprend le psaume 118. La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est pourquoi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en rendra les fruits. Celui qui tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera sera écrasé. Après avoir entendu ces paraboles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Et ils cherchaient à se saisir de lui. Mais il craignait la foule parce qu'elle le tenait pour un prophète. Jésus s'est heurté à ceux qui servaient dans le temple. Pourquoi ? À cause tout simplement de la dureté des cœurs de ces hommes. Ils avaient une loi qui a été enseignée avec la loi de Moïse, mais au lieu de l'appliquer avec un regard de bonté, de douceur, de miséricorde, ils l'appliquaient avec dureté. Je parle, mais des fois aussi, nous devons aussi nous regarder comment j'applique les choses que Dieu m'a enseignées. comment je suis dur peut-être avec un tel et avec un autre. Et qu'est-ce que je connais de sa vie, de ce à quoi il a dû passer, au travers quoi, au travers combien d'épreuves, de souffrances. Jésus est là pour enseigner l'homme et un pas à la fois lui faire comprendre des choses. Certains d'entre nous ont eu des parents qui, dès leur tout jeune âge, eh bien, lisaient la Bible chez eux et ont fait comprendre à leurs enfants aussi, selon l'enseignement qu'ils avaient reçu de cette parole, comment aller marcher dans la vie, faire attention aux uns, aux autres. Et eux-mêmes, ses parents, manifestaient aussi concrètement ces choses. D'aller vers les uns, les autres, d'essayer de s'ouvrir, de parler, de ne pas être dur. Mais aussi, on est homme. Et parfois, on a aussi des paroles dures. Cette semaine, un proverbe m'est venu à l'esprit. Enfin, je ne sais pas si on appelle ça un proverbe, une expression. Faire d'une pierre deux coups. Faire d'une pierre deux coups. Alors, j'ai essayé de rechercher un petit peu d'où ça venait. Lorsque le chasseur, donc voilà, hein, je trouve, quand on va chercher sur le net, hein, lorsque le chasseur tuait deux oiseaux avec une seule pierre, on disait qu'il faisait d'une pierre deux coups. Ah, il faut être habile hein, quand même. Parce que c'est vrai, si certains ont vu déjà avec un petit fil, une petite fronde quelque part, ils font tourner et ils lancent la pierre et ils arrivent à tuer deux oiseaux d'un seul coup. Mais déjà, pour tuer un oiseau, c'est dur. Faire d'une pierre deux coups. Alors aujourd'hui, l'expression a toujours le même sens d'atteindre deux objectifs en même temps. Alors, je continue à dire un peu, hein, voilà. Sur un site qui s'appelle Edilivre, je dis, on trouve, on utilise cette expression afin de mettre l'accent sur le fait d'atteindre deux ou plusieurs objectifs avec une seule action ou un seul moyen. Cette expression est encore appelée métaphore. La métaphore s'emploie ainsi au sens propre comme au sens figuré. Métaphore, un ami me parlait dernièrement, je ne sais pas, de métamorphose. Ça vous dit quelque chose, non? Voilà. Métanoïa, métamorphose, transformation, changement, opéré. Alors, faire d'une pierre deux coups, qu'est-ce qu'on a lu? La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Une pierre deux coups. Effectivement, puisque si elle est devenue, elle était fondement, appui, elle est devenue la principale de l'angle. Ouais. Et en fait, on a là, puisqu'il reprend Jésus cette métaphore, on va dire, ou cette parole, on a là un changement. Et c'est un changement complet, on va dire. Mais on le découvre un peu à la fois. C'est comme notre vie. On avance, on est, on a 3 ans, on a 7 ans, on a 12, on a 20. Oh là là. Déjà hier, je voyais des personnes qui se comparaient au niveau taille. Effectivement, il y a le corps humain qui prend une certaine croissance Et puis, au bout de 20 ans, qui grandit encore, même à 15 ans déjà. Hein? Bon. Ça a tendance à s'arrêter à 15 ans. Donc ça, c'est la croissance du corps charnel aussi. Voilà. Mais en même temps, on apprend aux enfants. Si on laisse dans les enfants dans la campagne, bah oui, ils apprendront avec leurs parents. Et c'est aussi peut-être des bonnes choses pour ceux qui vivent dans des villages, qu'ils apprennent à reproduire ce que leur père fait, essayent, voilà. Et ils ont une éducation aussi, voilà. Alors après, dans nos villes aujourd'hui, bien on apprend, on a des connaissances intellectuelles, scientifiques, de toutes sortes, juridiques, économiques, et tout est utile. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Qu'est-ce que nous en faisons? Est-ce que c'est pour partager une vie en société aussi? Ou si c'est pour venir comme une pierre et appesantir, mettre des fardeaux sur les uns, mettre des fardeaux sur les autres, imposer? Quelle pression subissons-nous? Et chacun, nous avons à la fois des pressions et des épreuves. Et sur quoi nous appuyons-nous? Si on ne nous a pas donné, quelque part, un but, des objectifs. Et effectivement, dans le monde, et tous ceux qui sont actuellement dans le travail, le but, les objectifs, on leur rappelle sans cesse, et vite, il faut y aller. Hop. Et c'est important aussi, d'avancer, d'y aller. Oui, ces choses sont importantes. Mais est-ce que nous avons des œillères? Ou parfois, on comprend que, ben oui, attendez, on a besoin de se reposer un peu. Et non seulement on a besoin de se reposer, mais d'être ensemble, d'avoir quelques amis autour. Des gens sur qui on peut se confier. Et donc à la fois on a l'amplitude, voir des foules, voir des amis, d'avoir voilà, toute une assemblée qui se réjouit comme tout à l'heure nous l'étions, ensemble en train de chanter. Et puis d'un coup le calme revient, on a pris un chant avec notre frère Jean, le calme, un chant plus doux. Vous voyez, il y a des moments... La vie, c'est ça aussi. Et puis, des fois, hop, on pense que ça... Et puis, ça passe pas. Et on retombe. Qui n'a pas été éprouvé? Notre sœur Varinia, dont on parlait, quelque part, dès le lendemain, ça va mieux. Oui. Et puis, ça va bien. Ça va mieux. Ça va bien. Ça va mieux. Ça va bien. Et l'épreuve, parfois, se prolonge. Mais Varinia, qui a été enseignée aussi dans la parole de Dieu, à des moments où elle est comme submergée, et puis tout d'un coup, le Seigneur vient l'apaiser, parce qu'il lui rappelle une parole. Et la paix revient. Tous, nous sommes éprouvés. L'épreuve de votre foi, est-il dit aussi. L'épreuve de la foi, c'est, ben oui, nous ne sommes pas là pour rien faire, être inactif, être dans un coin, nous reposer toute une journée dans un lit, et ainsi de suite. Les jours suivants, c'est pareil. Je me repose, je ne fais rien. Non, Dieu nous invite à aller, au contraire, à découvrir aussi. À voir les choses, parce qu'il y a des belles choses. Ce qui m'a heurté aussi, c'est le mot « bonne et heureuse année ». J'ai eu du mal à le dire.
à la fois, j'avais envie de le crier.
Bonne et heureuse année. Et dans ce mot heure, heureuse, c'est aussi le heure, la pierre, le temps qui passe, une année nouvelle. Et à quoi allons-nous, je veux dire, nous heurter ? Et comment la rendre heureuse ? Puisque, en fait, la direction qui nous est donnée, c'est heureux. Et certains ont peut-être lu Matthieu, 9 fois heureux. Et la 10e fois, c'est quoi ? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Donc, c'est aussi le bonheur. C'est toujours le bonheur. Heureux, 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 9 fois. Et la 10e fois, réjouissez-vous dans le Seigneur. Et en parlant d'heureux, c'est heureux serez-vous un futur ou heureux êtes-vous ? Déjà ? Bientôt ? Vous voyez, c'est toujours ce mouvement. Et voilà. Et plus on vieillit, plus notre tête se remplit de choses. On a découvert ci, on a vu ça. Alors, hier, j'écoutais aussi quelqu'un qui disait « Mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde ? Qu'est-ce qui se passe ?» Et moi-même, vendredi, à la réunion de prière, je partageais un fardeau avec les frères. Par rapport au Gédéon. Parce que vendredi soir, j'étais là à dire, voilà, nous avons une distribution au salon de l'étudiant, samedi, et il n'y a plus de mobilisation. Voilà. Une chape de plomb, quelque part, nous tombe dessus. Et c'est vrai que je suis au courant de tout ce qui se passe avec le virus et les vaccins aussi. J'écoute les uns, j'écoute les autres. Et c'est vrai que je vois que ça provoque aussi parfois des tensions et des divisions dans le monde du travail et dans ceux qui sont dans les au niveau des médecins, au niveau des corps de métier, des uns, des autres, et aussi au niveau du corps de l'Église, le corps du Seigneur. Nous sommes le corps du Seigneur. Sommes-nous appelés à nous diviser ? Et parfois, nous les divisons. Dieu permet ces choses. C'est incompréhensible. C'est ainsi. Quelle étape nous manque ? Je suis allé hier matin donc au salon d'étudiants. Et en me disant, il y aura des trous dans les heures, puisqu'on avait prévu de faire toute la journée. Et puis, je me suis dit, oh là là, il va y avoir le virus, le ceci, le cela, le pass sanitaire. Je pense qu'il y aura moins de monde que les autres années. Et l'année dernière, déjà, c'était organisé par le net. Donc, il n'y avait pas de salon présentiel. Et puis, 8h30, je me suis garé, le salon ouvre à 9h. Il y a déjà tous les exposants qui viennent, qui arrivent. Il y avait 10 personnes à la porte quand je suis arrivé. 9h moins le quart, il y avait déjà une file de 100 mètres. Et après, ce n'était plus une file, c'était le parking qui était rempli. Parce que forcément, il y avait les contrôles. Eh bien, j'ai manqué de foi. Parce que je me suis dit, on va faire... les autres années, on fait 2000 ou 1800 ou 1900. Bon, cette année, avec 1700, ça devrait suffire. Et puis, les frères sont arrivés aussi. On a eu une équipe le matin, on était 3, jusqu'à 11h. Mais ça ne nous a pas empêché d'avoir la foule qui était là. Dieu avait amené du monde, voilà. Il y avait du monde. Et puis d'autres sont arrivés. On a eu faire 2 équipes. À chaque bout, chaque feu, 14h15, ou 13h15, je crois, 1700 Nouveaux Testaments étaient partis. bien manqué. Et heureusement, il y avait une autre équipe qui devait nous rejoindre dans l'après-midi. Un coup de fil. J'ai dit tamponner aussi, parce qu'il faut mettre un tampon. Et on a ramené encore 400 Nouveaux Testaments. Et comme il m'en restait aussi un carton spécial dans la voiture, hop, à la fin de la journée, il était 15h15. On devait terminer à 16h. À 15h15, à nouveau, plus de Nouveaux Testaments. 2200 Nouveaux Testaments sont partis. Voilà. Le Seigneur a pourvu. Le Seigneur a permis. Il a amené et il nous a aussi donné la capacité de pouvoir, à une douzaine, nous étions 12, voilà, sur toute la journée, de pouvoir répandre cette parole. Et c'est très curieux, quand on a l'occasion d'être là, à pouvoir tendre la main, donner aux uns aux autres. Alors, il y a beaucoup de non, de refus. Et puis, il y a toutes sortes de situations aussi qui se présentent. Et donc, une sœur m'a raconté, qui distribuait, « Oh ben, j'ai tendu à un garçon qui l'a pris. » Et sa mère dit, « Non, ne le prends pas !» Comme si c'était dangereux, un poison. Et le garçon, hop, jeune, enfin, c'est à 17 ans, hop, il l'a mis dans sa poche. « Non, non, je le garde. » Et puis d'autres, par contre, ils le rendaient parce qu'on leur disait non, non, il ne faut pas toucher à ça. Et puis, mais on a toutes sortes de situations de, voilà, de ressenti des personnes. Les personnes sont sensibilisées d'une façon, d'une autre, par leurs parents, par leur contexte familial, peut-être une vie politique, puisque à la fin, on nous a distribué aussi des traités de Mélenchon. Voilà, on est tous influencés. Alors, on voyait tout. Et à un moment donné aussi, je vois une jeune fille et je lui tends le Nouveau Testament et elle me dit non. Mais je vois qu'elle était musulmane. Et donc j'insiste un petit peu, elle me dit oui, d'ailleurs elle me le dit, je suis musulmane. Et je dis, mais vous verrez, c'est une bonne parole. Et puis à la fin, à un moment donné, dis-lui, Dieu t'aime. Je lui dis, Dieu t'aime. Mais avec conviction et douceur, Dieu t'aime. Et ce testament qu'elle m'avait déjà rendu, je l'avais tenu dans ma main, et du coup elle l'a pris. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu nous aime. Dieu vous aime. Et c'est là la vérité. Dieu n'est pas celui qui veut nous abattre, nous faire tomber, écraser. Vous voyez ce qu'on lisait là ? Écraser. Non, Dieu est celui qui relève au contraire. Mais il faut aussi l'écouter. Il faut aussi l'écouter. Si on n'écoute pas, si on fait sa vie, ben oui, ben c'est l'histoire de jeune qui prend l'héritage, l'enfant qui prend l'héritage et qui s'en va. Ouais, deux fils, on prend l'héritage, il y en a un qui réclame son héritage et il s'en va. Mener la belle vie. Et puis la belle vie, c'est vrai, ça passe. Et à un moment donné, ça s'arrête, la belle vie. Parce que si on est dans la paresse, à rien faire, qu'est-ce qui se passe ? Ben oui. Et puis on est entraîné aussi, dans des jeux, dans des trafics. C'est là le danger. Et on ne réalise pas toujours. C'est oh, ben moi j'aurai l'argent, j'aurai ce qu'il faut. Et voilà que ce jeune homme tombe quelque part. Et de plus en plus bas. Et c'est vrai que c'est ainsi. Dieu permet. Mais il se souvient qu'il a un père. Le rocher, le père, l'éternel, ce qu'ont pu vivre aussi les avant que Jésus ne soit là, ces esprits de père. Le père n'est pas là pour faire manger des pierres à ses enfants. Il lui donne des bonnes choses. Ça aussi, c'est dans l'Évangile. Les pierres, vous savez, c'est aussi la dureté. Voilà. Mais c'est aussi, si on dit une pierre précieuse, ah, que fait-on à un jeune homme qui désire épouser une épouse aujourd'hui? Voilà, on voit beaucoup de films aussi, mais c'est un peu de vérité aussi. On offre une alliance, on offre une bague, on offre une pierre précieuse. Voilà, c'est aussi un signe de, ben oui, on tient à toi. Et on a envie de te donner un cadeau, parce que tu es un cadeau pour moi. Et c'est vrai que nous sommes des cadeaux les uns pour les autres. Dieu nous assemble comme des pierres précieuses. Mais des pierres vivantes. Des pierres vivantes. Qui peut me donner ce choc de pierre aussi que l'on trouve dans l'Évangile? Quelqu'un qui s'appelle Simon et qui fait une déclaration. Ouais. Ah, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais si je reprends la suite, voilà, tu es Pierre sur cette pierre. Voilà, d'une pierre deux coups, attendez. Tu peux réfléchir. Voilà, tu es Pierre. Alors, beaucoup de versions ont cela, mais les anciennes versions, comme Darby, utilisent tu es le rocher. Oui, alors ce jeu de mots a été utilisé, entre autres par le catholicisme, c'est vrai. Alors il y a à la fois des vérités et à la fois des erreurs. Il ne faut pas tout nier. Et parfois on a mal compris une chose. Et il faut revoir la chose. Et peut-être troisième fois revoir la chose. On a appris avec le Seigneur qu'il nous faut faire attention. Parce qu'il y en a qui ouvrent des voies, des pieds, stop. Et puis après, tiens, c'est une voie sans issue. Et il faut revenir en arrière. Alors, la pierre en question, effectivement, c'est pas l'apôtre Pierre et après... Et pourtant, c'est aussi l'apôtre Pierre, parce que Dieu l'envoie. Il lui donne les forces nécessaires pour aller. Mais au départ, le fondement et la pierre, c'est Jésus. C'est Jésus-Christ, la pierre. C'est lui le fondement. C'est quelque part, c'est lui sur lequel on peut s'appuyer, se reposer. Et quand on regarde aussi Jésus, c'était aussi tous les temples qu'il voyait, entre autres le temple reconstruit, qui était là, à Jérusalem. Et il y avait cette pierre aussi dans un temple qui soutient, des pierres de soutien, qui soutient des fois deux murs, une pierre de base, et qui soutient le mur d'un côté, le mur de l'autre. Ça peut être repris aussi sur une colonne. Le mot colonne aussi est employé. Donc il y a une pierre qui soutient. Et s'il y a plusieurs colonnes, parce qu'il faut faire un temple complet, ben oui, il faut plusieurs colonnes. Et donc, il y a plusieurs pièces de soutien. Donc, c'est à la fois une ou douze. Jésus seul, ou lui, et les douze apôtres. Ou Jésus, le rocher, les douze tribus. Du rocher de Jacob. N'avons-nous pas un chant ? Du rocher de Jacob. Et tout cela a du sens. Et les apôtres ont appris aussi autour de leur parcours. Quelqu'un rappelait aussi à l'étude biblique, trois fois, Jésus a repris l'apôtre Pierre en lui disant « M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? M'aimes-tu ? Mais Seigneur, tu sais que je t'aime ! » Et oui, il fallait que trois fois, trois reniements de Pierre. Pierre avait besoin de force. Et en le poussant dans ses retranchements, « Seigneur, tu sais que je t'aime. » Voilà. Des fois, on a besoin de pousser dans nos retranchements. Vous voyez toutes ces images de pierre, d'une pierre deux coups. Alors, la deuxième coup de la pierre en question, quand on lit les uns et les autres, la pierre angulaire est aussi dit, voilà, la pierre de l'angle, voilà, la pierre qui fait angle. Et il y a aussi la pierre qui protège, qui fait le sommet. Et ça s'appelle la tête d'angle. Des fois aussi la pierre de voûte. Et donc, ça fait un temple, la pierre du haut, la pierre du bas. La parole qui nous soutient, la parole qui nous protège, la parole qui nous couvre. Nous sommes couverts par la grâce de Dieu. Cela a été fait une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Je faisais relire, parce que par rapport au verset, j'avais vu, moi, dans Matthieu 10, aussi un aller. Déjà, mais la grosse différence entre le premier aller et le second aller, c'est que Jésus était mort et ressuscité. Ils avaient vraiment un ferme appui. Et ils pouvaient aller. Et Dieu envoya aussi l'Esprit aux uns et aux autres pour faire comprendre toutes ces choses. Nous découvrons la parole de Dieu. Et à quel que soit notre âge, eh bien, il est bon de la reprendre et de la relire, comme nous avons été invités par Marion, avec ces petites cartes. Ceux qui ne les ont pas encore, n'hésitez pas. On peut reprendre. De toute façon, on peut commencer n'importe quand. On peut commencer. C'est la résolution, la ferme résolution. Allez, j'y vais. Et puis des fois, les événements nous empêchent. Il y en a qui travaillent, qui sont représentants. Ils doivent partir tôt le matin, un train à prendre, un avion, un ceci, un cela. Et puis on n'a pas notre temps de prière, on n'a pas le temps de ceci. Et c'est vrai qu'on ne mesure pas toutes les activités des uns et des autres. Hein. Surtout avec le travail de nuit, le travail des uns. Voilà, c'est... Chacun a son temps. Dieu peut-être nous permettra de lire que 3 versets une journée. Mais déjà, nous savons que Dieu est notre appui. Et des fois, on est pris dans la tourmente et on sait que Dieu est là. Que Dieu soit avec vous. Que la grâce et la paix vous soient données. La paix, la justice de Dieu est accomplie. La justice, la paix, c'est aussi la justice. Nous avons un seul Dieu et Sauveur. Et nous pouvons toujours nous appuyer, 2000 ans après, sur ce seul acte qu'il a fait pour nous, cet acte qui détruit la mort. Nous parlons d'âge aussi. Et on en a parlé, 70 ans, 80 ans. Jésus a dit, vous vivrez 500 ans. Est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit, vous vivrez 70 ans? Est-ce qu'il a dit, vous arrivez à 30 ans? Vous vivrez 120 ans? L'ancien, le nouveau, celui qui croit en moi a la vie éternelle. C'est des choses que nous ne voyons pas. L'apôtre Paul, qui était à respirer la haine contre les premiers chrétiens, a dû réaliser. Et dans son parcours, il visait le but, la vie éternelle. Pas une vie terrestre, quelque part momentanée, passagère. Les uns 30, les uns 50, 70, 80, 120, 123, on disait l'autre jour avec Jeanne Calment, qui a vécu en France, voilà, 123 ans. Mais est-ce là que nous visons? Est-ce que nous visons 100 ans? Est-ce que nous visons 40 ans? 120 ans? Celui qui veut gagner sa vie sur la terre, la perdra. Et de toute façon, voilà, on est tous amenés à connaître un jour ce départ. Mais quand on parle d'enfant de Dieu, on parle de départ vers la vie céleste. La vie que Dieu a promis, la vie éternelle. 1000 ans, un jour, 1000 ans. Voilà, tout cela nous est rappelé. Merci pour tous les frères qui sont ici. Parce que vous me rassurez, vous me faites du bien. Et j'entends les uns, et j'entends les autres, et les épreuves. Mais nous sommes ensemble. Et combien de fois nous sommes réjouissis par de petites choses. Eh bien, continuons dans cette vie d'église. Et nous sommes aussi invités cet après-midi. Peut-être, le frère l'a dit, quelle inspiration aurons-nous? Quelle inspiration pour cette année? Je ne sais pas, mais peut-être quelqu'un sera inspiré. Ben déjà, ça a été une inspiration de nous faire reprendre tous ensemble la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.
Merci Seigneur, parce que c'est toi qui nous as parlé et qui parle encore aujourd'hui avec toutes ces lectures qui nous sont proposées, ces paroles, et aussi trouver un coin secret, le nôtre. Notre coin secret. Toi, tu allais sur la montagne, dans le silence, dans la paix. Et tu écoutais. Je ne peux pas entendre, Seigneur, ce que tu dis à mon frère. Mais tu lui parles, et je le sais. Et je te remercie de parler à mon frère, à ma sœur, à tous ceux qui sont là autour de nous et qui ont fait ce pas vers toi, et qui avancent aussi, Seigneur. Merci de nous conduire encore maintenant.